Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Di Fiore et prise de son assurée ce soir par Inès de Bourrine, réalisation David Jacubo-Viez. Autour de moi, ce soir, Charlotte Garçon, Thierry Chaise et Philippe Azoury, à notre affiche de Florida Project de Sean Baker, A Ghost Story de David Lowery et Jean Rouch, un cinéma léger, point d'exclamation, 26 films inédits en DVD aux éditions Montparnasse. Boris Pino est là également, surveillant les fils Facebook et Twitter pour donner à entendre vos réactions si vous avez vu des films dont nous allons parler ce soir. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition de Picasso à Séraphine, Wilhelm Hund et les primitifs modernes. C'est jusqu'au 7 janvier au LAM à Villeneuve-d'Ascq. Une dispute cinéma qui s'ouvre avec The Florida Project, le nouveau film de Sean Baker, 2 ans après Tangerine. Le film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Il s'intéresse à des familles défavorisées, on va dire ça comme ça pour l'instant, qui vivent dans des motels de la banlieue d'Orlando, le long de l'autoroute qui mène à Disney World. C'est surtout en suivant Moni, petite fille de 6 ans, que nous allons découvrir le quotidien de ces laissés pour compte du rêve américain.
Ok, I warned you, one drip and you're out.
Oh, come on.
Out now.
It's gonna melt outside.
It's melting inside too.
But Bobby.
Out. Thank you very much.
You're not welcome.
The man who lives in here gets arrested a lot. These are the rooms we're not supposed to go in. But let's go anyway. Could you give us some change, please? The doctor said we have asthma and we gotta eat ice cream right away.
Here you go.
Hey, Lee, got a situation here. Open up.
It's only second week of the summer and there's already been a dead fish in the pool.
We're trying to get it back alive.
Water balloons thrown at tourists.
Boobies! Boobies!
I failed as a mother, Moni.
Yeah, Mom, you're a disgrace.
New job?
Yeah.
If you're working, who's looking after Moni?
You're not my father!
I don't want to be your father.
You can't treat me like this.
You don't think everybody knows what's up here, Lee? Everybody.
She's about to cry. I can always tell when adults are about to cry. Why is my mom yelling?
They're just talking. They gotta figure something out.
See, I took you on a safari.
Oh, come on. Have a nice day.
Love you, Bobby.
I love you too.
The Florida Project est sorti sur les écrans français depuis mercredi. Et si Philippe Azoury commençait par nous en parler?
Puisque c'est moi, voilà. très, très agréable surprise. Enfin, pas surprise, parce que surprise, ça veut dire qu'on ne sait rien de Sean Baker. Très agréable confirmation, je dirais plus, parce que moi, Tangerine m'avait vraiment séduit il y a 2 ans. Même si j'avais trouvé à l'époque, on avait beaucoup parlé, Tangerine était un film qui était tourné à l'iPhone, je sais plus si c'était le 5. 5.
Voilà, le 5. Soyons précis.
Voilà, non, c'était le 5, c'était celui que j'avais en tête, j'ai pas vérifié, mais voilà, c'était le 5, donc avec, au sein de transsexuels, de toute la communauté LGBTQ. Et j'avais trouvé le film super, super séduisant. Au-delà de ces, justement, de ces attraits hyper séducteurs qui étaient une communauté qu'on voit pas au cinéma, dans laquelle on est plongé. Et cette espèce de truc au iPhone, un peu dégueulasse, sale, léger, mais très bien. Qui maniait très très bien. Avec en même temps, quand même une régisson derrière qui lui permettait de faire ça. Voilà. Mais on devinait que Sean Baker, était plutôt un cinéaste classique. Enfin, au final, il révolutionnait pas la forme. Il utilisait des outils neufs et il avait une bonne idée. Il avait des sujets de sujets hyper intéressants. C'est exactement ce qui se passe avec Florida Project là, qui n'est pas tourné, je pense, au iPhone 16.
Il
pourrait suivre.
Ça marche très bien. Là.
De la téléphonie mondiale, mais
il est sur le 20 à peu près.
Il est sur le 20. Ça c'est un peu mieux. Encore que ça accepte l'éclat de soleil qui vient de glacer l'image, est plutôt bien. Enfin, son cinéma ne change pas, même de graphie, enfin d'esthétisme, avec un peu plus d'argent. Il a à nouveau le pif pour le très bon sujet, c'est-à-dire effectivement communauté comme ça. Arnaud, vous disiez déshérité, ou je sais pas, on peut dire tous les outsiders américains tels qu'effectivement l'Amérique a souvent su nous les raconter, mais là c'est une unité de lieu et c'est génial parce que ça tient là-dessus. Une sorte de bâtiment géré par William Dafoe, qui est hyper bien. C'est-à-dire que très, très vite, on oublie qu'on oublie l'acteur et on croit au personnage. Il est quand même Dafoe, alors qu'on connaît, il y a une longue histoire entre William Dafoe et nous, mais ça marche. Et il y a cette mère et cette fille. La gamine a, je crois, 6 ans, 7 ans, je dirais. La mère doit en avoir 20 de plus.
Je dirais 15 de plus.
Je veux dire, elle doit avoir le début de vingtaine. Et quand même une présence comme ça, physique très forte. Je critique de cinéma, donc je suis scrogneux professionnel, donc je fronce un peu les sourcils, je arrive à nous refaire le coup de est-ce que vraiment il les aime, est-ce que c'est des atouts de séduction, c'est que ça. Et puis quand même si, c'est-à-dire qu'au début je tique un peu, je me dis la gamine n'est pas très très regardée, mais si quand même elle est regardée. Et puis la mère elle est pas très regardée non plus pour l'instant, c'est vrai, elle fait un peu de striptease et tout ça, mais quand même elle est bien. Et au fur et à mesure il commence à tisser quelque chose qui est hyper intéressant, parce que ça dit exactement ce que disait aussi Tangerine, la communauté des LGBT qu'on voyait dans Tangerine, c'est que finalement, et là il le dit avec l'enfant qui a 6-7 ans, avec la petite Mouni, c'est que les enfants ont le droit, eux, d'être inconséquents, irresponsables. Ils ont le droit de faire des conneries, ils ont le droit de cracher, ils ont le droit de casser la vaisselle, enfin, tout ce qu'ils veulent. Mais les adultes, eux, n'ont pas le droit. Or, les adultes, on nous a pas dit, nous adultes, qu'on n'avait pas le droit de se comporter comme des gosses. On nous oblige à la responsabilité. Et le film montre ça, et finalement, je me dis que c'était avec la même affection qui suivait dans Tangerine, ces personnages. C'était des enfants. Et d'ailleurs, c'est très bien quand on a entendu là l'extrait où elle dit à William Dafoe, t'es pas mon père. Il lui dit, mais j'ai aucune envie d'être ton père. Parce que la mère est une gamine. Et elle comprend pas d'un coup alors qu'elle fait les mêmes bêtises que sa fille, un peu plus adaptée à sa sexualité, mais on va dire. Elle comprend pas qu'elle est punie pour ça, alors que l'enfant a le droit. Et c'est troublant. Enfin, voilà. Et ça constitue un film qui est super séduisant, ce côté pop, comme ça, très, super géré. Mais qui a quand même, c'est un film qu'on quitte pas immédiatement. Enfin, sa vie. Moi, je l'ai vu il y a 2 jours. Je l'avais pas vu à Cannes, à la quinzaine. Il reste. Indéniablement, il reste.
Je reviendrai vers vous, Philippe Azoury. Thierry Chaise, un premier regard sur Florida Project.
Je partage ce grand plaisir. Moi, je l'avais découvert à Cannes. Dans mes souvenirs, on entend beaucoup de musique dans la bande-annonce.
Il y en a très peu dans le film.
Oui. Il y a Cool and the Gang au début et à la fin. Et après, le reste, c'est le brouhaha. Et je trouve, c'est ça qui est très bien. Et c'est ce que je trouve pas mal avec ce film, c'est qu'en effet, il a tout du film trop séducteur, a priori, sur les papiers. C'est beau. Donc, on se dit, il va donc se servir de tous ces personnages et de cette histoire. On s'attend pour faire un truc très clinquant. Et puis, plus le film avance, plus on se resserre sur cette mère et sur cette fille, plus en effet, comme disait Philippe, ils sont regardés, et plus moi je prends du plaisir. Je prends du plaisir parce qu'ils sont regardés, parce que d'un seul coup, c'est cette gamine regarde ce lieu. Ouais. Et le décor, c'est vraiment important. Mmh. C'est ces motels qui au départ avaient été construits pour accueillir ceux qui venaient visiter.
Les touristes de Disney World.
Et puis, qui sont totalement, justement, pas à l'abandon, mais habités par les fameux... laissé pour compte du rêve américain, qui sont de plus en plus nombreux.
L'Amérique en fabrique beaucoup.
Est-ce qu'il y a encore des rêves? En tous les cas, il y a beaucoup de laissés pour compte. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a justement à côté ce Disney World avec tout son imaginaire préfabriqué et donné. Et il y a cette petite fille à travers les yeux duquel on vit le film, qui, elle, eh bien, construit son imaginaire. Alors, c'est un imaginaire qui va aller dans tous les sens, qui va, en effet, faire des bêtises et tout, mais qui est totalement inventif. Et puis, la mère, eh bien, c'est aussi une enfant, et aussi, elle a cet imaginaire-là. Et c'est aussi cette confrontation entre, justement, ce divertissement donné et cette dureté de la vie qui, il faut bien, à un moment, ça faisait comme si la misère était, comme disait Aznavour, est plus belle au soleil. Il y a ce côté-là qui me plaît. Et d'un film qui pourrait être en effet très cadré, très « regardez comme je sais bien filmer, j'ai peu de moyens, regarde ». On oublie tout ça. Moi, j'ai été vraiment très ennuyé, très sensible. Et c'est ça l'essentiel, comme dans Tangerine, c'est qu'il aime ses personnages. Ouais, et on vit le film avec.
Charlotte Garçon, qui fait la grimace depuis tout à l'heure. Je sens que ça va changer de ton, là.
Il y a une expression américaine, pisser sur la parade. J'ai pas du tout envie d'ôter les couleurs à ce que vous avez dit. C'est, effectivement, The Florida Project, donc, en fait, c'est le nom qu'avait Disney World au départ, quand il était juste avant sa construction. Puis finalement, Walt Disney est mort en 66, avant que ce deuxième Disneyland donc, ne soit construit en Floride. Et puis, ça a changé de nom. Mais évidemment, ça joue sur le fait que Project, ça veut aussi dire une HLM en américain. Mais il me semble que le film, donc, à la fois, effectivement, est très ancré là-dedans, dans ce contraste qui, dès le pré-générique, l'articulation entre le pré-générique et puis ensuite le vrai début du film, il y a ce très fort contraste, puisqu'on entend Celebration de Cool and the Gang, et puis tout de suite, on voit des gosses qui crachent sur des voitures. Donc on a compris que ça allait être ça, et moi j'ai un petit peu regretté que ça s'en tienne là. C'est-à-dire que je n'ai pas tellement fait l'expérience d'une évolution de cette prémisse qui est intéressante. Elle est d'autant plus intéressante qu'effectivement, visuellement, elle est très bien travaillée dans le rapport à l'architecture, aux couleurs. Et surtout, ce qu'a bien noté, je pense, le cinéaste, c'est, parce que je ne pense pas qu'il ait inventé tous les noms de ces petits lieux. Par exemple, le stand de glace, peut-être. Mais il y a d'autres éléments du décor dont je pense qu'ils préexistaient. Alors évidemment, c'est Magic Kingdom, le vrai Disney World. Et eux, ça s'appelle Magic Castle. Mais aussi, surtout, il y a par exemple le Wizard Gift Shop qui est en forme de wizard, en forme de sorcier. La Orange World, pareil, c'est en forme d'orange. Donc, il y a une espèce de... c'est ça que j'apprécie, c'est qu'il y a un choc, enfin une espèce de redondance entre les mots et les choses, et qu'on ressent très fortement dans le film, parce que le film travaille dans ses dialogues au clash entre cette redondance-là dans le paysage, hein, tout est beau parce que ça illustre une idée complètement clichée et fossilisée du divertissement de masse, et les insultes des gosses, c'est-à-dire des gamins qui ont un langage qui ne correspond pas, disons, avec cette idée de l'innocence un peu doucereuse. Donc ça fonctionne assez bien, comme dans Tangerine fonctionnaient aussi les disputes entre les prostituées transgenres qui allaient, disons, à l'encontre d'une espèce d'empathie qu'on veut toujours essayer de plaquer, nous, sur des personnages un peu marginaux. Donc ça, je trouve que ça fonctionne. En revanche, moi, j'ai eu quand même l'impression d'un paternalisme. On entendait le personnage dire « t'es pas mon père », ben non, mais je veux pas être ton père. Moi, j'ai eu l'impression que le personnage du manager joué par Willem Dafoe, au fond... correspond en quelque sorte à une posture aussi du cinéaste par rapport à tout ce petit monde. Je ne dis pas qu'il ne l'aime pas, mais je trouve qu'il y a une sorte de paternalisme diffus qui, moi, m'a un petit peu gênée.
Dire que Florida Project, pour moi, c'est un des plus beaux films de l'année, comme ça c'est très clair.
C'est dit.
Très stimulant.
Puis il n'y en aura plus beaucoup d'autres maintenant.
Non, mais de l'année, donc ça veut dire que justement, de l'année écoulée, donc en effet, ça veut dire beaucoup. Très stimulant, très dur, très joyeux aussi, avec des enfants comédiens comme j'en ai rarement vu jouer, qui sont à peu près à l'opposé des singes savants américains dont on a l'habitude, on a parlé pour Stranger Things, ou on en voit des 13 à la douzaine qui sont horripilants de savoir-faire. Là, on a quand même des personnalités, et c'est valable aussi pour la mère qui est aussi une enfant, donc on la range dans la catégorie des enfants. C'est vrai que c'est une première fois aussi à l'écran pour elle. Bon, la présence folle de Willem Dafoe, on est toujours content parce que c'est la résurrection récurrente chez lui. Ça fait quand même, je sais pas, 40 ans que ça dure, donc on est quand même heureux de le redécouvrir à ce niveau-là. Et puis, on parlait de l'image, alors j'ai lu que c'était Alexis Zabe, Zabe, je sais pas comment on prononce son nom, qui est le chef opérateur de la photo. Et quand j'ai vu que c'était lui qui avait fait la photo de Post Tenebras Lux de Carlos Regada, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est un film qui m'avait tellement fasciné. Oui, ouais. Ça, ça y est, ça vous revient. Vous associez les deux.
C'est-à-dire très différent. Enfin.
Très, très différent, mais qui sait faire des choses somptueuses. J'imagine avec une économie, celle de Regada, on la connaît. Je sais pas ce qu'il en est précisément pour Sean Baker, mais voilà, ce grand chef opérateur que ce Alexis Zabe. Ce qui est compliqué avec The Florida Project, pour aller un peu dans le sens de Charlotte Garçon, c'est que je l'aime infiniment pour des raisons qui auraient pu, pour très très peu de choses, me faire détester ce film. À quoi ça tient, pour moi, que ce soit du bon côté, du côté du bon miracle, que du côté de l'agacement, ça fait partie des mystères de l'art. Et ça tient sans doute pas à grand chose, hein. Mais moi, je trouve que ça tient la ligne d'un bout à l'autre. Parce qu'à ce début, moi aussi, j'ai froncé les sourcils en pensant crognonieux que je suis. Encore des gamins, des belles images. On me l'a fait plus. Et puis, en fait, ça n'a duré que quelques minutes, hein, parce que j'étais embarqué. Et je trouve qu'il y a quand même une dramaturgie, un vrai scénario, il y a une avancée dans les personnages, il y a des surprises, sans que ce soit non plus tape à l'œil ou clinquant, il y a une progression narrative, un parcours des personnages qui est, en un temps assez resserré, riche, me semble-t-il. Philippe Azoré ?
Je le trouve un peu faible au son. Même si effectivement Thierry a noté le minimalisme de la musique, enfin il est pas de mauvais côté, mais il a pas un imaginaire sonore complètement dingue. Surtout, enfin le film me rappelle un autre film qui a 20 ans maintenant déjà, d'un autre turbulent américain qui est Harmony Korine, qui est Gummo. On pense à ça, notamment parce qu'il y a des gamines, parce qu'il y a une enfant et une même pas adulte. Et on voit ce que faisait justement sur cette sorte de sur cette trame profondément américaine, d'outsiders, ce que Harmony Korine faisait au son, c'est-à-dire de saturation, de comptines, de choses qui repassaient, où il y avait un vrai travail de sculpture sonore, qui là ne l'intéresse pas du tout.
Il n'est pas encore là.
On voit qu'il n'est pas encore là. Il n'est pas, sans doute même pas ce qu'il cherche. Enfin, je sens qu'il est évidemment dans un rapport, pour l'instant, de savoir la bonne position, la bonne distance entre lui et ses personnages, que ça l'occupe à 200%, et que, effectivement, le son est un peu mis de côté. Ce en quoi j'ai quand même l'impression, ce qui était déjà le cas pour Tangerine, qui est un film que vraiment j'aime beaucoup, qui est resté. Quand je disais tout à l'heure que c'était la confirmation que ce type avait de bonnes idées, de bonnes intuitions, je suis pas encore sûr que ce soit un grand cinéaste. On verra. C'est pas, pour l'instant, c'est pas le problème. Ce qu'il filme, c'est sur l'instant, et ce qu'il nous donne à voir. Et moi, me satisfait, en tout cas à la projection et même longtemps après. Enfin, j'ai quand même l'impression d'avoir passé 2 heures ou même un peu. Oui, c'est ça. C'est 1,50 le film ou 2,10, je sais plus.
1,52.
J'ai quand même l'impression d'avoir passé un peu de temps dans un bout d'Amérique. Mmh. Et ça, c'est des. Enfin, aujourd'hui, je trouve ça quand même encore énorme. Qu'il arrive à ce degré de présence et de direct, quoi. Mmh. Voilà.
Gérard Garçon.
Non, mais moi, j'ai quand même moins l'impression de passer du temps dans un bout d'Amérique que de voir des strates d'autres films. Mais ça peut être... Alors lui, Sean Baker parle des petites canailles.
Oui, ça, j'ai beaucoup aimé cette référence. Les enfants... Qui parle pas à grand monde, faut quand même le dire.
Ne regardiez pas Enfants, les petites canailles.
Si, mais avec la voix de Laurence Badie. Très, très vieux.
La voix de Laurence Badie, ça vous a pas marqué?
Je pense que c'est assez précis comme référence.
J'ai dû vivre dans un placard pendant ces années.
Parce que c'est les enfants de la dépression des années 20 et 30. C'est pas bête, c'est intéressant. Moi, j'ai pensé à Alice n'est plus ici de Martin Scorsese. Bon, alors chacun amène son manger.
Le Truffaut, quoi.
Voilà, on peut y aller. La galerie commerciale de Golden 80s de Chantal Akerman pour les stands de glace. Enfin bon, mais tout peut y passer. Mais du coup, c'est vrai que le côté une tranche d'Amérique, moi, je suis pas tellement.
Vous avez l'impression que c'est plutôt un millefeuille
de références codées américaines, même pas américaines, mais cinématographiques codées de récits cinématographiques.
Codées, ce serait un peu... Je pense pas qu'il nous les donne à décoder, mais en tout cas, j'ai un peu de mal à voir
le réel,
l'originalité propre, disons, de ce cinéaste-là. Sinon, ce travail d'articulation entre la matérialité des mots et la matérialité des décors. Ça, je trouve ça assez frappant, notamment effectivement dans le travail sur la couleur et presque sur la couleur du ton, de la façon dont les gens parlent et même l'originalité des insultes quand la petite fille, je crois que c'est la petite fille qui dit banana boobs à la femme qui a des seins en obus, en banane si je comprends bien, qui se prélasse au bord de la piscine. Voilà, ça fait surgir des couleurs et ça, c'est vrai que c'est d'autres couleurs par-dessus les couleurs des décors.
Thierry Chaise, encore un mot.
Oui, mais c'est ce que j'aime bien, c'est s'inscrire aussi dans une famille de cinéma. Dans son premier long, il traite un sujet qu'on voit peu. Là, il traite d'un sujet qu'on a beaucoup vu. Et c'est en ça, je suis d'accord avec Philippe, c'est qu'en tous les cas, il ne déçoit pas par rapport au premier, parce que dans un univers plus codé, justement, je trouve qu'il y a sa petite musique. Mais moi, la musique, je trouve, c'est son attachement au personnage. Je reste là-dessus. C'est qu'il, vraiment, il les porte. Alors peut-être qu'il est un peu trop paternel avec eux. Peut-être que son amour est... Mais moi, ça déborde. Ça déborde. Et qui se voit, mais ça m'a, moi, vraiment, je trouve qu'il y a une manière de filmer. Si cette petite fille est aussi bien, c'est aussi qu'elle est bien regardée, bah oui. Et bien dirigée. C'est pas juste. C'est
un bon directeur d'acteur.
Voilà. Et vraiment, quand tout le monde est bon, ça, c'est quand même un très bon signe.
Oui. Moi, j'aime quand même beaucoup ça aussi.
Et surtout quand ça cohabite entre William Dafoe d'un côté, une gamine qui a 7-8 ans,
une amateur
qui a 20 ans, et qu'on voit pas les niveaux de jeu, ça veut dire que il se passe quand même quelque chose.
Il y a quelqu'un qui est là.
Quelqu'un qui dirige.
Et même tout ceux à côté, enfin, soit la copine, la dame à seins nus au bord de la piscine.
Banana boobs,
super.
Oui, il y a du beau monde. Un tout petit commentaire, Maurice Pinault.
Oui, sur Twitter, à la question The Florida Project est-il le plus beau film de cette fin d'année, Flol répond que c'est un peu exagéré, mais que c'est quand même très bon, et Willem Dafoe y est fabuleux.
Ouais, il se demandait si on allait citer son tweet, et ben voilà, qui est fait concernant The Florida Project de Sean Baker, à suivre dans la dispute Ghost Story et un coffret Jean Rouch.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette émission consacrée ce soir au cinéma avec A Ghost Story, un titre on ne peut plus indiquer pour l'histoire d'un fantôme, donc apparaissant sous un drap blanc, donc a priori une histoire de fantôme. On aurait peut-être pu traduire éventuellement, enfin bref. Le fantôme d'un homme qui rend visite à sa femme dans la maison où il vivait.
When I was little, we used to move all the time. I would write these notes, and I would fold them up really small, and I would hide them.
What'd they say?
They were just like things I wanted to remember, so that if I ever wanted to go back, there'd be a piece of me there waiting.
So much
history,
no place like home. That's a business.
A writer writes a novel, a songwriter writes a song. We do what we can to endure. She found someone else. Build our legacy piece by piece, and maybe the whole world will remember you, or maybe just a couple of people, but you do what you can to make sure you're still around after you're gone.
Bon, je vais vous faire un double aveu concernant Ghost Story. D'abord, je ne l'ai pas encore vu. Et alors, quand j'entends la bande-annonce, je ne suis pas sûr de vouloir y aller. Mais vous allez m'en dire un petit peu plus. Non, c'est vrai que la semaine a été chargée. Je préfère voir beaucoup de gens rouges. Ghost Story, Thierry Chaise. Non, parce que la bande-annonce, c'est terrible. Mais je suis le premier à dire que les bandes-annonces, il faudrait les supprimer. Donc,
bah déjà, comme celle de Florida Project, je trouve qu'elle ne traduit pas vraiment le film, voire pas du tout. Mais
C'est plutôt rassurant, ça, pour l'instant.
Oui, bah heureusement, parce que moi, j'ai découvert ce film à Sundance en janvier dernier. Je ne savais pas du tout ce que j'allais voir, et dans une salle qui lui a été particulièrement hostile. Ah. Parce que donc, le film commence, il y a donc cet accident. Il meurt, le héros meurt, il est allongé sur un lit à la morgue à l'hôpital, et d'un seul coup, il se redresse avec un drap sur lui, des yeux découpés comme par l'enfant de Florida Project était venu découper les voilà. Et là, tout le monde se met à rire Ah. Une partie de la salle part, une autre partie rit. Donc j'ai vu un film contre ses spectateurs quasiment. Et la remarque que vous voyez sur Florida Project, je l'ai exactement sur Ghost Story. C'est-à-dire que je vois tout ce qui peut agacer ou tout ce qui a pu m'agacer. Et malgré tout, j'ai marché, je me suis fait avoir. David Lowery, c'est son troisième long métrage. Il a d'abord fait Les Amants du Texas, déjà avec Casey Affleck et Rooney Mara, qui était un film indé mais assez calibré. Puis il va faire Les Aventures de Peter Elliott le Dragon, qui est là l'adaptation Disney. Et avec le pécule de Peter Elliott le Dragon, il se lance dans cette histoire qui est née de sa vision d'un documentaire la nuit autour de Los Angeles qui risque d'être détruit par différents chamboulements écologiques. Il a peur de la mort, il se lance dans ce film-là. Alors c'est un film qui... Voilà, c'est à totalement.
D'accord.
Voilà, c'est donc un film sur la mort. Bon. Alors c'est un film... qui a donc un reflux spectaculaire.
On va voir la tête de Philippe Azoulay pendant que vous parlez. Non, il roule des yeux.
C'est la vérité.
On va lui mettre un drap sur la tête, je crois pas.
Donc, il y a un reflux du spectaculaire, il y a des dialogues réduits au minimum. Il y a cette idée qui est un film sur donc, l'impossible deuil des gens qui sont morts. Et qui a quelque chose. Moi, je me suis fait totalement embarquer par cette ambiance-là. Je suis totalement embarqué par la manière dont Rooney Mara est filmé. Et en même temps, je dis qu'il y a des choses très agaçantes, c'est que. On sent que c'est un film aussi de petits malins. Et c'est un film qui, pour moi, à partir de cette idée-là, où il y a très peu de dialogue, où en effet, on laisse le spectateur se rendre compte de la situation, essayer de faire son film à partir de ce qu'on voit, je trouve qu'il essaye toujours, le réalisateur David Lowery, de donner des explications, de dire « Ah, il faut aller vers là. Ah, il faut penser ça. » Jusqu'à son scénario où on a envie que le temps passe et lui... De manière, voilà, il va faire une boucle temporelle. On se dit, il reprend le pouvoir, alors qu'on a envie justement par ce film-là qui sort des cadres évidemment hollywoodiens, mais même des cadres indépendants d'aujourd'hui, on a l'impression d'une extrême liberté où malgré tout il veut guider et dire attention, voilà ce qu'il faut penser,
parcours
voilà
fléché.
Ce qu'il faut raconter. Un parcours qui est pour moi trop fléché et surtout qui va à l'inverse de la logique de ce que j'ai aimé et de ce que je pense qu'il veut faire.
Alors après, heureusement que vous l'avez aimé parce qu'avec le mal que vous en dites.
Non mais ça c'est après.
Oh, c'est terrible. Voilà. On vous flèche les choses comme
oui,
ça.
Oui, mais malgré tout, j'ai résisté. Je pense que j'ai résisté à ça. Et moi, je me suis laissé totalement embarquer. Il y a des scènes qu'on ne voit pas, qui laissent du temps au temps et qu'on ne voit même pas dans le cinéma indépendant américain aujourd'hui. Il y a quelque chose, en tous les cas, une proposition qui est singulière. Et moi, qui m'a plu pour ça. Mais une fois encore, je vois très bien tout ce qu'on peut détester dans ce film.
Je sens que vous allez voir encore mieux avec vos camarades. Bon, Philippe Azoulay, j'ai vu sa tête. Ce genre de garçon, elle fait poker face, on ne sait pas ce qu'elle va dire.
C'est difficile de savoir ce qu'on en pense. en tout cas, j'ai eu du mal à démêler effectivement l'agacement, l'impression qu'on est vraiment dans des cases. Dans un geste de distinction, c'est-à-dire d'abord travailler sur la soustraction, travailler sur ce premier geste de choisir un fantôme qui ressemble à un déguisement d'Halloween. Bon, voilà, effectivement. Il y a quand même quelque chose d'assez poseur dans le fait de recouvrir Casey Affleck, lauréat entre autres, lauréat d'un Oscar, d'un drap pendant 80% de temps du film. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait lui sous le drap. Donc...
Il y a des retakes.
Vous avez enquêté.
Oui, j'ai un peu cherché.
Il y avait Ben Affleck aussi.
Voilà, peut-être aussi. Non, je crois que c'est le chef décorateur. Bon, peu importe. Mais, enfin, peu importe. Il y a une forme de snobisme, je trouve, dans la recherche de cette épure. Cela dit, au début, un début qu'on oublie parce que le fantôme surgit, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui est que cette soustraction s'opère en fait dès le début. C'est-à-dire que quand le couple est encore ensemble, on se dit que l'homme est en fait absent, il est absorbé dans sa création musicale extraordinaire que vous avez fait entendre. Et il y a une forme de réflexion quand même, c'est plus que réflexion, on sent, nous, en tant que spectateurs, c'est vraiment à couper au couteau, l'absence de l'autre, toujours déjà absent, toujours déjà mort au sein du couple. Donc, c'est pas drôle. Mais en même temps, je trouve que c'est assez bien rendu. Et du coup, la boucle temporelle paraît moins gratuite une fois qu'on a perçu, quand on a ressenti ça au début. Après, effectivement, le film, à mon avis, manque d'humour, en fait. Parce qu'on est au bord du fou rire quand on en parle, mais il faut quand même dire que pendant qu'on le regarde, il est extrêmement solennel. c'est que ce soit le rythme et solennel y compris dans l'usage du plan séquence qui est bon alors le fameux il y a un plan séquence qui est déjà devenu
c'est la première fois que j'entends parler alors
voilà d'anthologie ou mais parce que
parce qu'il se passe quoi dans ce plan
séquence parce que tout simplement Rooney Mara mange une tarte bon
je vais y aller
mais la recette n'est pas donnée donc voilà
Rooney Mara qui est donc une actrice particulièrement frêle a un coup de boulimie parce que elle rentre de la mort, que ça va pas très fort.
De la mort.
Et donc
de l'enterrement. Oui. Son mari.
Oui, elle rentre de la mort. Et donc elle trouve une tarte. Bon, voilà que lui a laissé une voisine. Bon, c'est pas tout à fait une voisine. Vous saurez qui c'est si vous allez voir le film.
C'est peu Ben Affleck.
Voilà. Et donc elle se met à la manger. Mais là où c'est effectivement ça frise le comique involontaire, c'est que j'ai jamais vu une actrice aussi mal manger. C'est-à-dire, j'ai l'impression que cette femme, en fait, cette actrice ne mange jamais.
C'est un rôle de composition pour elle.
Mais ça vous est pas arrivé de manger, je sais pas, au moins une demi-tarte, voilà.
Si.
Voilà, ça m'est déjà arrivé.
C'est son piano shot à elle, manger une tarte.
Exactement. Donc il y a un problème et c'est évidemment on voit la pause de ce plan séquence puisqu'elle est censée être dans un moment de boulimie et voilà. Bon, donc le problème c'est que cette solennité-là, qui est une solennité de formaliste en même temps, et en même temps de type qui sait qui parle du deuil et de quelque chose de très lourd, elle est vraiment diffuse dans tout le film et elle gâche, je trouve, les moments qui peuvent être effectivement des moments de grâce ou des moments ancrés dans le décor, parce que, pour le coup, l'histoire de la maison, c'est intéressant. La bande dessinée sur cette maison... Comment ça s'appelait ici
Richard Maguire.
Voilà, extraordinaire, c'est émouvant. C'est-à-dire qu'on est dans un appartement, une maison qui change, et rien que ça, l'absence de ceux qui sont morts, qui y ont vécu, c'est hyper émouvant. Et là, on sent qu'on a un essai cinématographique, une tentative de faire la même chose, et je sais pas, ça prend pas vraiment.
Philippe Azoury, sur ce film, dont j'oublie le titre déjà, Ghost Story, voilà.
Je l'ai vu hier soir. Dans un UGC Normandie clairsemé. Ouais. Pendant que vous étiez en train de faire la fête et tout ça.
On dénonce pas tes camarades.
De la fête de France Culture hier soir, ça peut nous arriver une fois par an quand même.
Non.
Ou deux.
Pas pendant.
Vous en faites tout le temps là, dans vos magazines de mode et de bien-être. Vous passez votre temps à Miami, alors arrêtez.
Bon, je pense que c'est potentiellement. De toute ma vie, je parle pas de l'année 2017 ou même 2016, voire la décennie, ce que j'ai vu de plus bidon. C'est un calvaire comme j'en ai rarement connu. Mais réellement, je me demandais ce que je vous avais fait, qu'est-ce qui se passait, j'avais peut-être pas été gentil dans l'année. Je le saurai le 24 ou le 25 décembre
faut
au matin.
Payer ça,
on paye la note. Il y a un moment dans sa vie, on est là pour payer. Moi, c'était hier soir, donc ça dure 1h25. J'ai cru mourir.
Oh, ça va, quelle chance.
Ouais,
la prochaine fois que vous serez méchant, vous allez avoir un film épouvantable de 3h15.
Mais non, mais par exemple, l'usine de rien, Fabrica de Nada, qui dure 3h25, j'ai l'impression que ça dure 14 minutes. Ça dure 1h25.
J'appelle la relativité du temps.
Au-delà des 10 heures, c'est aussi ce que j'ai vu. Alors, quand Charlotte dit effectivement le côté pesant et solennel du film, j'étais seul. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé si j'étais venu avec ma copine ou avec des amis, tout ça, on aurait pu rigoler. Parce que franchement, je pense qu'ils devraient faire des tarifs groupés pour que les gens puissent venir en car ou en bus de CE rire aux éclats. Parce que c'est ridicule à un degré. C'est inimaginable. Enfin, la traduction par un cinéaste Sundance de deux, trois trucs qu'il croit avoir compris. D'une part, de Chantal Akerman, et Charlotte parlait effectivement du moment où Rooney Mara mange la tarte. Alors, moi, je veux bien. J'ai vu Jeanne Dillman couper des légumes, et c'est magnifique parce que Chantal Akerman filme un rituel et que ça l'intéresse, ce rituel-là. Là, d'ailleurs, le plan n'est pas éclairé, donc je sais même pas ce qu'elle mange comme tarte. J'aimerais bien savoir.
On dirait des épinards, ou du chocolat.
J'ai pensé des fruits rouges, tu vois. Donc, elle mange une tarte, ça dure 20 minutes. C'est dans un espèce de derrière de son semi-industriel horrible.
Un peu de drone ou pas ?
Oui, un peu de drone, mais souffle passé à l'envers. Dans un truc que plus personne ne fait dans la musique industrielle depuis à peu près 77, quoi, voilà. Et même chose pour tout ce qui relève de l'apparition fantôme, etc., où on voit, qui se dit, mais pourquoi les Asiatiques arrivent? Pourquoi Pichapong Verasetakul arrive? Pourquoi le moindre signe japonais y arrive et nous, les Américains, n'y arrivent pas? Ben, peut-être tout simplement, et précisément le drone en parlait, parce qu'ils écoutent ce qui se passe. Il y a un réel du son. Là, au son, c'est non seulement la musique qu'on entend et c'est la castafiore absolue, mais au son, c'est une catastrophe intersidérale. cathédral. C'est complètement repassé dans un espèce de brouhaha. Et au milieu de tout ça, donc il y a un deuxième, alors je sais pas, est-ce que c'est un plan séquence, en tout cas une séquence un peu comme ça, deux tiers du film, qui vient livrer les clés, c'est le fameux parcours fléché dont parlait Thierry, c'est Will Oldham, le Will Oldham, mais oui, de Palace Brothers, Bonnie Prince Billy, j'ai un peu claqué, fin d'année, je reviens du film, un peu vénère et tout, qui va expliquer une espèce de grande théorie sur le fait que on est là sur Terre pour laisser deux, trois trucs, on espère tous laisser deux, trois trucs, alors certains c'est des bouquins, parce qu'il parle avec une fille qui dit qu'elle a commencé un livre, et puis finalement elle le tient pas, parce qu'il n'y a pas d'argent à la clé, tout ça, mais l'argent c'est pas tout, tu laisses une trace, mais en même temps, pourquoi laisser des traces, puisque de toute façon tout va disparaître, et tout ça est autour du lien, et de ce qu'on laisse et de ce qu'on laisse pas. Comme si on avait à peu près 9 ans et demi. Et tout ça, alors, éclairé, claustro, le son du drone derrière en continu, de temps en temps, donc la Castafiore qui se met, un truc, on n'en fait plus, enfin, ce genre de pop song, même Muse, c'est pas des horreurs pareilles aujourd'hui. Un boubiboulga d'horreur, avait tamisé sur un fond un peu vaguement. Est-ce que c'est des diapositives ou des vieilles photos, limite David Hamilton. Par moment, sans les petites filles, je tiens à calmer tout le monde bien que. Ouais. Et avec Casey Affleck qui par ailleurs, mon démarrage l'aime bien, mais Casey Affleck, moi c'est une, je peux pas. Enfin, je pense que c'est l'homme choisi des films qui ont le don de m'énerver. Je sais qu'il y avait un espèce de consensus critique sur Manchester by the Sea, qui moi me rendait fou.
J'ai pas vu non plus. Décidément.
Voilà, j'ai quitté la salle en hurlant. Là, j'ai pas vu. Là, j'en avais très très envie, mais quand même j'ai voulu tenir. Là, par ailleurs, il y a une très belle scène, c'est quand il tente un suicide. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Celle-là, il y a un côté un peu Blade Runner, comme ça, beau. Le reste est un calvaire.
Charles Garçon, vous vouliez ajouter quelque chose?
Je me pose la question, je pense que vous êtes excessif, Philippe.
Mais c'est pour ça qu'on l'aime.
Voilà. J'ai jamais eu la réputation.
Non, mais je me pose quand même la question du contexte américain où finalement, peut-être que tout est tellement dans la surenchère, enfin, que ce soit dans les films du super-héros ou autres, parce que finalement, même quand c'est des Anglais qui font des choses à Hollywood, Dunkerque, voilà, c'est énorme, c'est l'immersion totale, etc. Donc est-ce que c'est la réception positive de ce film, elle ne vient pas de ce contexte-là. Et du coup, quiconque soustrait passe pour Bresson. Vous voyez ce que...
J'ai l'impression que c'est plus compliqué parce que le film avait été envoyé à Deauville où il y a eu un consensus critique, il a eu tous les prix et tout ça. Et moi, je l'avais raté parce qu'il passait, alors que j'avais mon train. Donc, j'y suis vraiment là en pensant qu'il y avait quelque chose. Toute l'année, effectivement, ça a commencé à Sundance. Oui. Le film n'a cessé d'être porté par une rumeur, notamment venue d'Europe, enfin, en disant voilà un Américain un Américain ami, enfin, un peu, qui fait comme. C'est toujours le même malentendu, en fait, les Américains qu'on aime bien, je sais pas, on va revoir les Fuller à partir de janvier à la Cinémathèque, c'est finalement les Américains qui le sont, Américains complètement, qui essayent pas du tout de singer un truc européen.
Under the Skin de Jonathan Glazer, je sais plus s'il est anglais ou américain.
Il est anglais,
moi j'avais eu la même impression de tout à coup faire le vide
ça,
autour.
J'ai détesté ça.
Voilà.
Ah, mais moi j'avais adoré.
Ça peut...
ce geste d'épure. Ouais, ouais.
Mais là, avait la grâce, quand même. Là, la grâce, on la voit.
La grâce, c'est très subjectif.
Ouais. Moi, je pensais qu'il avait la grâce.
J'estime. Bon, vous voulez dire un dernier mot, Thierry ?
Juste, c'est distribué comme par Universal, qui est une grosse machinerie, et il ne serait jamais sorti en France sans ce qui s'est passé au Festival de Deauville. C'est-à-dire que
il savait pas
quoi faire de cet objet-là.
Oui. Mais voilà. On voit bien que maintenant, ils se disent, les Européens vont marcher, on va le renvoyer en disant, les Européens ont adoré, allez-y, voici un auteur. Moi, je préférerais voir Peter et Elliot le dragon. Enfin, je pense qu'il est meilleur dans ce truc-là. En plus, j'adorais le premier.
Eh bien, vous viendrez pour en parler.
Oui.
The Ghost Story de David Lowery était également sur les écrans depuis mercredi.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute cinéma, c'est un très copieux coffret de 10 DVD regroupant 26 films inédits de Jean Rouch, qui voit donc les éditions Montparnasse poursuivre leur travail d'édition exemplaire de l'œuvre du cinéaste ethnographe, qui aurait eu 100 ans cette année. Voilà, beaucoup de choses pour le centenaire Jean Rouch, et c'est tant mieux. Alors, au menu de ce coffret, ethnofiction, rituel, promenade parisienne, trois ensembles pour permettre l'approche peut être un peu renouvelée des thèmes et des genres dans le cinéma de Rouch. On trouvera aussi dans ce coffret quelques films inachevés, juste pour la couleur un petit peu, un petit peu de son. Pour le coup, il y en a chez Jean Rouch, des funérailles à bongo.
Allô, cousin.
Allô, ouais.
Allô, tu m'entends, cousin?
Oui, je t'entends très bien, cousine.
Écoute, tu as reçu ma carte postale?
Oui, j'ai reçu la carte postale, mais je ne sais pas de quoi il s'agit.
Ah bon, tu sais, ici, ils ont perdu quelque chose dans l'eau. Est-ce que tu peux venir?
Ah, dans l'eau?
Oui.
Mais ça ne pose aucun problème.
Tu peux venir?
Oui, je peux.
Bon, écoute, tu me retrouves à la place Sainte-Marie-Élisabeth, d'accord?
Très bien.
Tu viens, hein?
Oui.
D'accord.
Ok.
Allez.
Bon, au revoir.
Cousin.
Cousine.
Ça y est, tu es là?
Oui.
Ah.
Alors, comment ça va?
Ça va?
Ça va.
Comme d'habitude, tu es en retard.
Eh, tu sais, les avions, ma chère.
Ah, mais j'espère.
Pourtant, j'ai reçu la carte postale.
Ah, bon, bon, d'accord.
Mais ouais. De quoi s'agit-il?
Bah, tu vois, ça s'est passé là.
Ça s'est passé ici.
Oui, c'est ici qu'ils ont perdu, je ne sais quoi. Ouais. C'est ici.
Eh bien, à Niamey, ils sont en train de préparer la pirogue. Les ouvriers sont en plein boulot pour finir la pirogue que je vais t'envoyer à ton adresse.
Ah bon?
Oui.
Oh, mais ce n'était pas la peine parce qu'ici, j'ai fait préparer une pirogue, tu verras.
Ah bon?
Oui. Et ici, ça s'appelle gondole.
Gondole?
Gondole. Ça s'appelle gondole et je vais t'amener voir l'atelier. Tu verras?
Oui.
C'est pas la même chose qu'à Niamey.
D'accord. Bon, on y va.
Je suis en train de faire un plan parce que j'ai un garçon, parce qu'en fait c'était pas du tout Funérailles à Bongo qu'on a entendu. On a reconnu parce qu'on a regardé passionnément ce coffret, c'est Cousin Cousine, où on se retrouve à Venise. Alors j'étais en train de faire un plan à Charles de Garçon pour lui dire où est le garage à gondole qu'on voit dans le film de Jean Rouch et qu'on voit toujours à Venise, parce qu'il est toujours en activité. Je vous ferai le plan tout à l'heure.
Alors tu vois le Harris Bar,
c'est beaucoup plus loin, c'est plutôt de l'autre côté, c'est là où il y avait les paquebots avant. Tiens, Charles de Garçon. Comment on attrape un objet comme celui-là? On s'est un peu mis d'accord les uns les autres pour évoquer deux, trois films. Enfin, c'est toujours compliqué dans une masse, et tant mieux, devant une masse pareille.
Oui, là, en entendant Venise, on voit qu'on part très très loin dans des méandres.
Ça reviendra quand même au Niger à la fin du film, d'ailleurs. Mais...
C'est extrêmement foisonnant. D'abord, je crois que c'est le seul cinéaste pour lequel il y a un travail qui est fait, aussi bien d'archives, de restauration de films, d'exhumation de ses photos, d'expositions et de salves successives de DVD. Donc, en fait, c'est bien d'être ethnologue et photographe, et cinéaste, parce qu'on a plusieurs institutions
qui s'occupent de vous.
Voilà. Donc, bravo pour ça, Jean Rouch. Non, mais c'est vrai que ça devient quelque chose de monumental et d'énorme. Et là, on a quand même un coffret dominé par, le geste ethnographique. Mais ce qu'on a entendu, ça fait partie de ces ethnofictions qui dominent vraiment le coffret. Et c'est un concept... si on a vu quelques films de Rouch, on en est familier. Mais là, je trouve qu'avec cet ensemble-là, on prend vraiment la dimension ethnographique de ce geste-là. Et ce qui est beau, c'est qu'à l'intérieur du coffret, il y a quand même ce film très français, très parisien, qui est La Punition.
On en parlera dans un instant.
Voilà. Mais le simple fait de cette coexistence au sein du même coffret, alors il est en minorité, Paris est vraiment en minorité parce qu'on est très souvent au Niger, parfois au Ghana. Mais en tout cas, tout ça est du coup entremêlé. Et je pense que c'est la singularité de Jean Rouch que de brouiller complètement la distinction, à la fois bien sûr entre ethnographie et sociologie, mais aussi entre fiction et documentaire, de manière, j'allais dire, en acte. Il n'y a pas besoin de théoriser, il y a juste à aller, alors souvent avec les mêmes copains, parce que
c'est important. L'âme, l'amouret, enfin on les connaît, ils font partie de la famille.
Oui, d'amouret, l'âme et Talou, il les a rencontrés, je crois, au début des années 40, dès qu'il est allé au Niger quand il était encore ingénieur des ponts ou des mines, des ponts, je crois.
Dans les ponts, il les faisait sauter. Voilà, quand il...
et en fait, il crée à chaque fois un film avec ses copains, quelque part. Et ce coffret-là, enfin, plusieurs des films, alors que ce soit Babatou, Les Trois Conseils, par exemple, c'est un film où ça prend une dimension vraiment épique.
Ah oui.
Là, c'est une histoire...
Fils de guerre.
Voilà, historique.
Avec des guerriers, des très bons cavaliers d'ailleurs, des costumes, etc. Et puis d'autres moments, c'est beaucoup plus ancré dans le quotidien ou dans certains rituels.
Philippe Azoury, progrès sur ce coffret Jean Rouch.
Non, c'est une sorte de petit silence comme ça. Donc, c'est moins facile que Ghost Story. C'est moins facile parce que j'ai peut-être aussi un rapport à Rouch qui est moins facile. J'étais étonné du titre générique du coffret, un cinéma léger.
Ouais.
J'ai dit DVD. C'est gentil. Mais s'il y a une, enfin, J'ai toujours trouvé au contraire, c'est pas que je trouve rouge lourd, mais je le trouve porteur par son geste d'une histoire qui, elle, est tout sauf légère, qui est finalement l'histoire de la relation entre l'Afrique et l'Occident tout au long du XXe siècle, dont il a été à la fois le grand cinéaste venu de France, dont il s'est aussi, dont il a aussi essuyé les plâtres, c'est-à-dire que même au sein de gens avec qui il était en contact, avec qui il a beaucoup dialogué, je pense notamment à l'écrivain et cinéaste Ousmane Sambène, qui en 65, alors qu'Ousmane Sambène est le premier à dire que Moi, un noir, le grand film de Rouge, qui a ouvert les portes, qui est un film qui date de quoi, 56, 57, bon, en tout cas, qui a vraiment montré à Godard, à Truffaut, qu'on pouvait, ou Rivette, qu'on pouvait faire des choses avec une caméra 16 et que c'était pas la peine de s'ennuyer. Sambène est le premier à dire que Moi, un noir est un film magnifique, que c'est un des grands films qui a compté, mais Sambène a très vite accusé, c'est pas accusé parce que c'est pas un dialogue violent, c'est un dialogue continu entre Sambène et Rouge. Mais en 65, il lui a quand même dit « Tu nous regardes comme des insectes ». Et il y a eu ce problème sur Rouge, qui est le problème de la voix off, qui est alors voilà. C'est bizarre parce qu'effectivement la voix off, on voit le problème. Moi, un noir, on peut regarder. C'est-à-dire de quelqu'un qui, à un moment donné, même armé des meilleures intentions. Et ça, je pense que c'est... Enfin, personne ne dira le contraire. C'est quelqu'un qui aime l'Afrique, qui a fait tout pour l'Afrique. Même les gains des films a manifestement été partagés. Mais qui, à un moment donné, sans s'en apercevoir, sans en avoir complètement conscience, mais c'est un truc d'époque aussi, a parlé à la place de... Alors d'ailleurs, c'est intéressant que ça tombe sur... Parce qu'on dit « moi, un noir ». Alors que finalement, c'est le film où Rouge a laissé le plus d'espace. Où il s'est certainement fait à la fois déborder par les gars, mais aussi, il était très à l'écoute. C'est un peu moins vrai, je trouve, que les films qui sont le plus à l'intérieur du coffret, sur l'ethno, où il convoque la voix off, continuent à me gêner. C'est-à-dire, j'ai envie de couper le son. Voilà. Mais on peut le dire aussi de Marker, à part que Marker a une voix telle qu'il pourrait réciter l'annuaire et Rouge a peut-être ce phrasé un peu comme ça, vieille France. Donc on sent la France. Et c'est pas un colonialiste pour autant, mais il y a quelque chose de compliqué. Et les études postcoloniales aujourd'hui, on voit dans lesquelles on est immergé, parce que même ça déborde partout, on se dit, est-ce que à la lumière de ça aujourd'hui, est-ce que à la fois on a une grande joie de recevoir ce coffret Rouge, de voir ce matériau restauré, sauvegardé, enfin disponible, parce que 3/4 des films sortaient pas, on les voyait jamais, on entendait à peine parler. Et en même temps, est-ce que c'est regardable en l'état? Est-ce qu'on doit les prendre comme des chefs-d'œuvre ou est-ce qu'on les prend comme un témoignage de ça? Et il y a ce film avec Depardon. Qui est très beau dans l'intérieur du coffret, qui est 10 minutes, je sais pas comment ça s'appelle, un ciné-portrait.
Ciné-portrait, oui.
Ciné-portrait de Depardon par Rouge et de Rouge par Depardon.
Et réciproquement.
Et réciproquement, voilà.
C'est le titre, je crois.
Et on voit, enfin, il est très intéressé, il filme Depardon, il l'amène au Louvre et Depardon raconte des plans et il dit, j'essayais de me faire oublier, mais me faire oublier, enfin, ça, il raconte un dispositif, voilà, de tournage, de me faire oublier moi avec ma caméra, mais faire oublier, ça n'existe pas. Et c'est le point nodal exactement dans lequel est Rouge. C'est l'histoire de Rouge. C'est aussi l'histoire de l'ethnographie. C'est pas Rouge qu'on désigne pas Rouge. C'est l'histoire de l'ethnographie au XXe siècle. C'est à quel moment l'homme, on est là, on n'arrive pas à se faire oublier. Alors c'est très bien quand il le met en scène, justement quand il crée des fables en ethnofiction et qu'il pousse le truc parce que Babatou c'est déconnant. Enfin, c'est littéralement déconnant. Ça devient fascinant quand ça revient vers un geste ethnographique. Il y a un moment où moi je suis embarrassé. Enfin voilà, sans dénier le cinéaste génial et l'acte génial.
Thierry Chaise, sur Jean Roche.
Je suis un peu d'accord, mais je trouve justement dans les ethnofictions et dans Babatou, on redonne la parole.
Il n'y a pas de voix off dans Babatou.
Et voilà, et on redonne la parole.
Si, il y en a un peu, non?
Au début et à la fin.
Mais après, par ce travail à la fois très précis et d'improvisation, j'ai l'impression qu'on redonne la parole à ceux qu'on observe. Ouais. Et c'est là que je trouve qu'il est le plus intéressant. Et puis, il y a cette idée, en effet, que l'objectivité.
Ça n'existe
totalement
pas.
Neutre, ouais. N'existe pas. Mais beaucoup le théorisent, lui, il le montre en pratique.
Oui,
et c'est en ça que...
Il a essuyé,
Moi, j'avais vraiment vu, j'avais vu Moins un homme, mais très très peu de films, et d'un seul coup, l'accumulation fait qu'il y a... En fait, c'est à la fois des documents, c'est vraiment une partie document, documentaire pour certains, qui est... Ça raconte à la fois ce qui est montré, mais comment... On le montre à l'époque, ça raconte en effet une vision. La France est encore venant de quelqu'un qui est anticolonialiste, anti-pétiste, anti-tout, donc du plus ouvert de tous, mais ça raconte aussi une histoire. Et ensuite, il y a un amusement. Dans ces ethnofictions, il y a quelque chose que je trouve. Dès que ça a improvisé, des choses comme ça, ça a assez d'une modernité absolument incroyable. Et ce contraste entre cette modernité peut être incroyable et à un moment des voix off qui apparaissent et qui, là,
date totalement, terriblement le film.
Ce contraste-là est passionnant. Mmh. Et l'avantage coffret, c'est que justement, il y a tout. Et l'accumulation des choses fait qu'on est en plus marqué. Et puis, il y a, on a évoqué tout à l'heure, mais ce passage par Paris.
Paris. Un petit mot encore sur les propos avant de parler pour l'instant de la punition.
Oui, parce que je trouve que c'est compliqué cette histoire de la voix off et de l'appropriation de l'autre, de l'imaginaire de l'autre. Parce qu'au fond, on voit bien que ce qui l'intéresse, le nombre de films où ce sont des rituels, par exemple des rituels de possession, etc., on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est donc l'imaginaire de l'autre, ses mythes, etc., encore plus que ses coutumes, vraiment, dans le sens folklorique. Et au fond, on voit bien que si c'est sur ces rituels, notamment de possession, qu'il se concentre, je crois, c'est parce que lui aussi, en tant que cinéaste, se préoccupe de faire voir l'invisible. Donc, il trouve des gens qui ont des rituels pour ça. Et lui aussi, il a des rituels de cinéaste.
Mais c'est bien pour ça, j'imagine, Charlotte, que nous cinéphiles avons beaucoup plus finalement aujourd'hui de tendresse et même au-delà, enfin de fascination pour le travail de Rouch, que les gens qui sont aujourd'hui, qui travaillent ou sur le post-colonialisme ou dans l'ethnographie de zéro, pour dire une ânerie, quoi, comme ça, mais qui le prennent beaucoup plus à distance, notamment, enfin c'est pareil, enfin relire, c'est sur internet le dialogue entre Ousmane Sembène et Rouch de 65, et Sembène lui dit: tu te rends pas compte à quel point quand tu filmes les rituels, tu nous fais plus de mal qu'autre chose, parce que ce sont les seules images de l'Afrique qui vous arrivent en France ou dans les festivals internationaux dans lesquels les films circulaient, et on continue à nous prendre pour des dégénérés. Ensemble, mais tourne-toi vers la modernité. C'est vrai que la modernité, il avait du mal à s'y intéresser.
Mais ça, il y a une réponse là-dedans, dans le petit film qui s'appelle Faire part, musée du cinéma d'Henri Langlois, et c'est aussi très bien qu'il soit à l'intérieur, comme une espèce de drôle de chose dans ce coffret, parce que on comprend, quand il fait visiter le musée du cinéma, que ce musée du cinéma était indéplaçable, que c'était en fait une œuvre, c'était une création d'Henri Langlois, et que le déplacer, ne serait-ce que changer...
Là, c'est une vision quand même très moderne. Hein.
C'était sa mort, et notamment, il dit, c'était ça le musée du cinéma, on a l'impression qu'il va pleurer, puisque le musée va disparaître en 97 quand il fait le film, en tout cas, il va être déplacé à Chaillot, et puis finalement...
J'en étais le dernier guide.
Voilà, il a disparu. Et il dit, c'est ça le musée du cinéma, pour Langlois, une série de faux témoignages. Et on se dit que c'est ça aussi le cinéma de Jean Rouch avec les Africains.
Bon, il nous reste 3 minutes quand même pour évoquer La Punition, ce film un peu étrange, enfin pas un peu étrange, il est étrangement dans ce coffret, puisqu'il nous ramène à Paris avec la sublimissime Nadine Ballot, une lycéenne qui se fait virer de son cours de philo et qui va déambuler dans la ville et faire quelques mauvaises rencontres, c'est sous titre, hein, La Punition, les mauvaises rencontres. Thierry Chaise, un mot, quelques mots.
Élégant, fin, moi j'avais jamais vu ce film. Début des années 60, on pense à Romer, des choses comme ça. Et ce qui est formidable, c'est que le début d'ailleurs, j'aime dès le départ, où quand elle se fait virer, on entend le son,
on n'est jamais dans le lycée.
Comme s'il fallait vraiment être à l'extérieur. Et d'un seul coup, il y a une déambulation dans Paris, avec cette femme au charme absolument incroyable. Des dialogues, mais c'est un ravissement, c'est vraiment...
C'est écrit au début en 3 actes à partir d'improvisation.
Et là encore, c'est un portrait presque ethnographique du Paris de cette époque-là et de ses figures, des différentes personnes qui vont la draguer. C'est un charme absolument inconsidéré pour moi, voilà.
Philippe Azoury.
Ouais, moi, je l'avais vu il y a des années sur France 2, enfin à l'époque Antenne 2, c'était Claude Jean-Philippe qui l'avait passé. Le film m'avait, j'étais adolescent, je pense, le film m'avait horripilé, et en même temps, je n'ai jamais cessé pendant 15 ans d'y penser. Je suis allé le revoir cette année, il passait à midi, un samedi matin, et je l'ai revu, et là, j'ai pris le plaisir exactement que décrit Thierry, tout en continuant à me poser ces questions, je m'en sors pas, enfin, est-ce qu'il écoute réellement cette fille? C'est pour ça que là, Thierry a dit un truc très juste. Il dit c'est un portrait de Paris. Sur Paris, c'est génial. Et notamment, le Luxembourg. Tout le moment, Luxembourg est incroyable. Est-ce qu'il arrive à écouter cette fille? C'est encore un autre problème. Ouais.
C'est quand même la pièce manquante des films de la Nouvelle Vague qu'on connaît
plus.
Donc c'est important qu'on le revoie, disons, davantage.
Il l'a fait en 60 et il l'a monté en 63. Ouais. Donc c'est très tôt. C'est le même moment que le Signe du Lion, que Paris nous appartient.
D'ailleurs, il y a une petite anecdote autour du Signe du Lion dans le film. Mais en tout cas, il me semble qu'après lui, il y aura Jean Eustache qui sera encore meilleur ethnographe de la France. Mais il est quand même pas mal.
Parce qu'on peut s'énerver contre le film, mais ça
ça résiste.
Et notamment la punition, c'est...
Il est fort là-dessus. Ouais.
Il se passe des choses entre deux personnes, enfin ça a l'air de rien, mais c'est pas si facile à établir, dans un panoramique notamment chez le deuxième homme, le deuxième dragueur qu'elle rencontre. Et puis, je trouve que la punition est une sorte d'esquisse de Gare du Nord. Gare du Nord, ce court-métrage qui est dans Paris vu par, qui est pour moi le chef-d'œuvre presque de Jean Rouge, c'est un peu ce qu'on
avec la même Nadine Ballot.
Avec la même Nadine Ballot, où là, on a l'impression qu'il a compris ce qu'il avait fait avec elle dans la punition et qu'il s'en resserre pour vraiment lui-même concevoir une fiction beaucoup plus dense, mais finalement, c'est la même idée, l'ouverture à l'aventure, au hasard, et ce que ça peut avoir de, finalement, de manufacturer aussi chez cette petite bourgeoise. Voilà. Donc, beau film au sein de d'autres très beaux films, mais très différents.
Gloire aux éditions Montparnasse hein, pour ce travail quand même extraordinaire autour de l'œuvre de Jean Rouch avec ce nouveau coffret de 26 films inédits, donc quelques-uns dont nous avons pu parler ce soir. Et avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Et à France Culture, comme dans toutes les entreprises, nous avons des stagiaires cette semaine, des stagiaires de 3e. C'est Joseph Cartron qui était avec nous ces quelques jours. Donc c'est à lui que va revenir la charge très lourde, hein, évidemment, Joseph, de nous dire d'abord quelle était la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse.
Après avoir créé un parc d'attractions à Bristol, dans quelle ville Banksy a-t-il ouvert un hôtel ? Et la réponse était Bethléem.
Je vous assure qu'il est en 3e, parce que si vous l'entendez à la radio, vous vous dites, mais en fait, il a 43 ans ce garçon. Non, non, je vous assure. On fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition de Picasso à Séraphim, Wilhelm Hund et les primitifs modernes. C'est au LAM, très bonne maison, à Villeneuve-d'Ascq. C'est jusqu'au 7 janvier qu'est la question, Joseph.
Quel représentant de l'art dit naïf a édifié dans son jardin un palais idéal ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions. Et bien sûr, c'est plus simple, vous abonner au podcast. Lundi, 19h, dispute consacrée au spectacle vivant avec Fabienne Pascaud, Lucille Comeau, Jean-Christophe Brianchon. Donc notre façon de célébrer Noël, c'est de parler de Cap au pire, de Samuel Beckett. On parlera également d'actrice, de Pascal Rambert. Mais quand même, pour être un peu festif, Singing in the Rain, en ce moment sous la nef du Grand Palais, mise en scène Robert Carsen.